Voilà, bienvenue à l'enseignement du soir. Cette présence que nous cultivons n'est pas une attention ordinaire. C'est vraiment une présence libératrice. Et j'aime à l'appeler ainsi, car elle libère l'esprit de la confusion, elle libère l'esprit des entraves, des réactions, elle libère l'esprit des voiles. Donc il y a là une intention et une cultivation qui est tout à fait spécifique à la méditation. Au contact des expériences directes, d'instant en instant, nous pouvons percevoir plus clairement ce qui nous entrave, ce qui nous complique la vie. La manière dont on peut quelque part ne pas être aussi pris dans les entraves. Il y a une citation de la part du Bouddha qui dit ceci. Il s'adresse à nous comme étant des amis. Il dit: Mes amis, c'est par l'établissement de l'attention que vous pouvez lâcher prise sur le passé et l'avenir. Surmonter l'attachement et le chagrin, abandonner tout agrippement et toute anxiété, et éveiller une liberté de cœur inébranlable, ici et maintenant. Donc, éveiller cette liberté de cœur inébranlable dans le présent, au contact de ce qui émerge toujours au présent, c'est le seul lieu où l'on peut éprouver la vie. Et surtout, découvrir la possibilité de ne pas être pris dans les concepts au sujet du passé, pris dans les concepts au sujet de l'avenir. Donc ce soir, j'aimerais vraiment aborder ce thème qui est tellement essentiel et qu'il est peut-être un petit peu plus difficile d'intégrer et de comprendre, c'est ce thème des pensées. Et puis, naturellement, en lien avec les pensées, il y a les émotions. Donc, tout au long de la rencontre et de la pratique, nous cultivons cette qualité de présence aux sensations corporelles, aux sensibles, aux sons, à ce qui est entendu, à ce qui est vu, au goût. Donc, tout ce répertoire, si vous voulez, de phénomènes au niveau du sensible est le lieu de la présence. C'est évident qu'on peut découvrir la nature de notre être à ce niveau-là et qu'il est important d'apprendre tranquillement à nous relier à notre expérience intérieure. C'est déjà un mouvement que de pouvoir découvrir ce qui se situe en nous-mêmes et non pas à l'extérieur de soi, tellement porté à vivre au contact de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, c'est une constante découverte, mais il y a là aussi une disposition d'esprit et d'exploration qui permet une attitude consciente et compatissante, je dirais, pour percevoir l'esprit lui-même, ce qui habite l'esprit, tout ce qui se situe au niveau du mental. Et donc, si nous méditons pour obtenir le calme, eh bien, c'est un choix, c'est un potentiel, c'est une possibilité. Mais le but même de la méditation vipassana n'est pas d'être simplement dans un conditionnement qui va naturellement générer uniquement du calme. Il s'agit de pratiquer pour la liberté. Donc le calme est sous-jacent et c'est tout à fait possible qu'on peut éprouver par moments des expériences de calme, de tranquillité et que ces conditions vont changer. Donc vraiment l'intention la plus profonde, ce n'est pas la tranquillité de l'esprit, mais la vision pénétrante. Voir vraiment très clairement ce qui nous entrave, ce qui nous limite, ce qui nous complique la vie. Et comment on peut naturellement avoir une disposition d'esprit qui nous libère de nos complications. Et une des relations les plus compliquées et certainement les plus confuses et dans lesquelles on se perd encore et encore, et c'est vraiment intéressant de percevoir ceci aujourd'hui parce que le monde se complique et donc nous avec, dans le sens qu'il y a vraiment pas la stabilité qu'on a peut-être pu connaître précédemment et que tout à coup on est vraiment pris à mal avec ce qui se passe extérieurement et qu'on peut percevoir en nous-mêmes les complications qui naissent de ces effets et ces phénomènes apparaissant dans le monde aujourd'hui. Donc bien sûr qu'on peut se relier avec ce qui se situe à l'extérieur de nous, mais quelque part l'intérêt et l'invitation du Bouddha, c'est de pouvoir comprendre que c'est à l'intérieur, c'est l'esprit lui-même qui va naturellement se développer et se cultiver, et se dévoiler et se révéler à lui-même pour ensuite se mettre en relation avec le monde de façon un petit peu plus équilibrée, voire beaucoup plus équilibrée. Donc c'est un thème qu'il est important de comprendre peut-être même déjà intellectuellement, si c'est la première fois que on a cet exposé sur les pensées, eh bien, vous pouvez peut-être avoir une compréhension intellectuelle, mais à nouveau, il s'agit de vivre l'expérience, de pouvoir l'éprouver, de la sentir. Comment est-ce qu'on peut être présent au contact des pensées? Comment est-ce qu'on peut être présent au contact d'un récit? Et donc, c'est ceci que j'aimerais un tout petit peu explorer avec vous ce soir. Déjà, prendre en compte si nous sommes situés avec des préjugés. Il y a des fois des stéréotypes, des préjugés autour des idées qui se manifestent en relation avec les pensées. Non, moi je médite pour le calme. On croit qu'il faut se débarrasser des pensées pour pouvoir être plus présent corporellement. Donc il y a toutes sortes d'idées qu'on a, hein, toutes sortes de préjugés, de suppositions. Et déjà d'éclairer ça, ce sont des pensées, les préjugés, ce sont des idées qu'il est important d'éclairer et d'illuminer pour voir, tiens, mais quelle est mon attitude? Quelle est mon idée au sujet des pensées? Et de pouvoir à ce moment-là se rendre compte que ce n'est même pas une question qu'il est important peut-être d'explorer, mais que c'est une nécessité. Car la vision qu'on a va naturellement nous révéler la manière dont on pratique. La façon dont on voit la méditation va nous aider ou nous limiter dans la manière dont on pratique la méditation. Et donc c'est vraiment important de se questionner et d'explorer comment est-ce que je vois la chose. Donc par exemple, et on est peut-être nombreux à débuter et penser que les pensées sont un problème. Donc si les pensées sont un problème et qu'elles constituent une entrave, eh bien on va avoir une attitude qui va naturellement être en rapport à chercher à les éliminer. Donc un des éclairages, c'est que les pensées en elles-mêmes ne sont pas un problème. Donc ça, c'est vraiment une question très importante. C'est même une question, ce n'est pas une question de choix. On va penser. Donc c'est vraiment important de savoir qu'elles surgissent et elles vont surgir. C'est une fonction extrêmement importante de notre vécu et qu'on peut naturellement faire beaucoup de choses, créer. Des choses fabriquées, vraiment avoir plein d'idées et qu'il nous faut une certaine capacité de penser, de réflexion, même capacité utile de penser. Maintenant, dans la méditation, elles ont une autre place. Ici, nous ne sommes pas en train d'essayer de concevoir, de fabriquer ou même d'engendrer un objet ou une réalisation particulière, mais de découvrir cette disposition d'être à chaque instant, Donc, comme l'a bien décrit Charles au fil de la journée ou comme on a pu le décrire à d'autres moments. Donc, ce qui semble important, c'est de vraiment avoir à cœur et de comprendre le contexte dans lequel les pensées surgissent. Donc, le contexte ici, eh bien, il est révélateur d'un contexte tout à fait spécifique qui est de vivre l'expérience directe. Qu'à chaque instant, on essaye de goûter et de se nourrir de cette expérience directe, de vraiment vivre l'instant, l'expérience. Donc, le souffle, les sensations, les sons, et que toutes ces expériences, eh bien, elles vont révéler la présence. Elles vont vraiment me révéler à moi-même en tant qu'être en présence. Eh bien, les pensées, elles ont aussi cette aptitude. Les pensées peuvent nous révéler notre présence. Donc, c'est vraiment important de situer le contexte dans lequel les pensées et les émotions surgissent. Ici, dans la mesure du possible, et l'invitation, c'est de les recevoir, de les vivre avec calme et équilibre. Alors, ça demande de la pratique, mais c'est vraiment ça qui va nous porter à une plus grande liberté. Est-ce que nous les recevons avec calme et équilibre, avec réceptivité, ces pensées, ou avec un esprit qui est réactif, qui immédiatement veut se débarrasser de cette expérience, qui réagit très rapidement lorsqu'elle se présente, ou est-ce qu'on a un contexte dans lequel on va avoir une relation qui fait qu'on s'agite parce qu'elles sont présentes? Donc tout ceci va vraiment nous révéler ce qui se passe dans l'instant. Maintenant, il se peut très bien qu'on ait à un moment donné une réaction à la pensée qui émerge et l'instant d'après, avoir la conscience de cette réaction et de ne plus être mu et de pouvoir être en présence de façon un petit peu plus tranquille. Donc ceci implique qu'à chaque instant, il y a un vécu qui est perçu et qu'on peut nourrir et qu'on peut cultiver et que la qualité de la présence va naturellement se développer et mûrir, si on veut, ou grandir au contact de ce qui émerge. Peu importe l'expérience, mais elle doit être reconnue, donc perçue pour ce qu'elle est. Donc, dans ce contexte, les pensées et les émotions sont des phénomènes à rencontrer, à éprouver, des expériences à vivre, comme toutes les expériences, au moment présent. Comment apporter de l'équilibre lorsque l'esprit est réactif, lorsqu'il est en réactivité, en réaction? Eh bien, on apporte de l'équilibre en investiguant. Et l'investigation ici, ça implique une exploration plus fine. On s'intéresse à ce qui se passe au moment présent. L'exploration, elle est nourrie de ce qui m'éveille au moment présent. Donc, on s'intéresse à cette dimension, mais qu'est-ce qui se passe ? Ici et maintenant. Quel est le vécu? Qu'est-ce qui se trame? Donc dans la méditation Vipassana, cette vision pénétrante, c'est ce que veut dire Vipassana, eh bien, on a à cœur quelque part de vraiment avoir de la curiosité, de l'intérêt. Et donc c'est pas juste pour avoir un peu plus de calme, mais on se rend compte de ce qui se passe, on est intéressé à ce qui se passe. Et on peut se rendre compte qu'au niveau des pensées, eh bien, il y a vraiment vraisemblablement beaucoup de fois où on crée un monde intérieur. On a des univers entiers de contenu qui se trament, qui émergent, qui arrivent, de récits que nous avons, que nous explorons, qu'on a tendance à se répéter aussi. Hein, je veux dire... Il y a des fréquentations qui sont répétitives au niveau des contenus des pensées. Et plus on pense un contenu, plus on le solidifie. Donc plus on va y croire de façon véritable. C'est vraiment la réalité. Et cette réalité à laquelle je pense, ou ce qui est le contenu de la pensée, eh bien, va naturellement m'envahir. Ou en tout cas, il y a cette sensation d'envahissement parce qu'il n'y a pas suffisamment de clarté, de compréhension de ce qui se passe au niveau des pensées. Donc, on est pris dans le contenu, ce à quoi je pense, le récit. Maintenant, bien sûr que ces récits, eh bien, ils peuvent avoir des colorations, si vous voulez, ou des saveurs différentes. Par moments, on peut avoir des récits extrêmement joyeux, j'espère pour vous. Des récits qui sont plaisants, on va dire. Et puis, par moments, il y a des récits qui sont assez effrayants, hein. Donc, on se crée aussi des drames. Et que, il y a là à vraiment commencer à repérer et reconnaître le type de récit ou de contenu, si vous voulez, ce qui se dit. Et ce avec quoi on vit de façon plus ou moins permanente, sans s'en rendre compte si on n'est pas méditant, sans s'en rendre compte. On vit plus au contact des récits, des pensées, de nos histoires, qu'au contact de la réalité, qu'au contact de l'expérience sensorielle. Donc il ne s'agit pas, lorsqu'on médite, de chercher à se débarrasser de ses pensées. Ceci est vraiment irréaliste. Et puis aussi, ça figerait et ça provoquerait beaucoup de tensions. Donc c'est évident que si on est dans un cheminement où on est plus ou moins débutant, ben on va passer par là. On va essayer vraiment de se débarrasser des pensées pour être plus au contact corporel. Et puis c'est souvent ça qu'on se dit, mais je ne peux pas être présent corporellement ou même au niveau des sensations parce qu'il y a tout cet envahissement et cette prolifération, si on veut, des pensées. Et c'est normal qu'on passe par là. Il y a vraiment cette dimension qui fait qu'on lutte ou on a un combat contre. Jusqu'à ce qu'on puisse quand même se situer un tout petit peu plus fréquemment au niveau du contact corporel, de la présence corporelle. Et à ce moment-là, on se rend compte que les pensées, le fait de penser est une fonction naturelle. Donc c'est vraiment une fonction naturelle de l'esprit. Et dans la compréhension de la psychologie bouddhiste, c'est ce qu'on appelle un sixième sens, dans le sens que voilà, le corps éprouve des sensations, les yeux voient, les oreilles entendent, le nez sent et l'esprit pense. Et c'est vraiment comme ceci qu'on doit le comprendre. L'esprit pense, c'est sa fonction de penser. Et donc on peut même dire que on a les cinq sens physiques et que ce sixième sens est quelque chose que l'on peut reconnaître. Donc l'attention ou la pleine conscience ou la présence attentive est capable de reconnaître les pensées quand elles sont émergentes et qu'elles sont naturellement ici en train d'être vécues et d'être perçues pour ce qu'elles sont. Donc vous voyez que dans ce registre, c'est un processus. C'est un processus extrêmement dynamique de vie qui se révèle d'instant en instant et qu'à un moment, on peut être conscient d'une sensation physique, d'un son, et que l'instant d'après, bah, tout à coup, on peut devenir conscient du fait d'être en train de penser. Et là, on passe vraiment de la dimension au contenu, ce qui se dit, au fait d'être conscient d'être en train de penser. Donc là, il y a un basculement Vous le comprenez ceci? Et ce basculement, il est extrêmement important parce que du coup, je suis positionnée, ma posture est différente. Ma posture me permet à ce moment-là, en tant que méditant ou méditante, d'être dans une relation où il y a de la présence et je nourris cette présence pour pouvoir percevoir l'expérience présente, momentanée. Car tout est momentané, changeante. Donc c'est ceci qu'on va naturellement apprendre et surtout intégrer tranquillement. Alors on se perd et on se retrouve, on se perd et on se retrouve. C'est quelque part le processus même de la méditation qui nous permet quelque part de découvrir cette extraordinaire capacité aussi tout à coup de réaliser waouh, mais il y a une seconde je pensais, puis là je suis consciente de la pensée, du fait d'être en train de penser peut-être après coup. Donc c'est tout à fait normal ceci. On va se dire ah mais je peux pas être consciente d'une pensée au moment où elle se passe, peut-être très différemment de la manière dont on est conscient d'une sensation corporelle, parce que elle est beaucoup plus tangible, donc elle est plus franche. Naturellement, il y a cette capacité de pouvoir être au contact de ressenti et que la pensée, poup, elle est fluctuante, donc elle a déjà disparu au moment où je veux en prendre conscience. Donc tranquillement, ce processus de méditation se déroule au niveau de la présence, de la conscience, d'instant en instant. Et ça nous nourrit. Il y a vraiment une disposition d'être au contact, d'être totalement en lien, relié, sans être perdu dedans, quelle que soit l'expérience. Relié, présent, sans être perdu dedans. D'où cette présence qu'on peut nommer libératrice. Libératrice dans le sens de libérer de la confusion, d'être pris dedans, d'être imbriqué ou d'être identifié. Il y a un petit texte d'un maître avec lequel j'ai un petit peu pratiqué en réel. J'ai beaucoup lu ses livres et c'est un maître de la tradition tibétaine qui est un jeune Rinpoché qui s'appelle Mingyur Rinpoché. Et il dit ceci. Les pensées sont un peu plus insaisissables que les sensations corporelles ou les sons. Au début, elles se précipitent et culbutent comme l'eau qui se précipite sur une falaise. On ne peut pas vraiment les voir. Mais en prenant conscience de la même manière que vous prêtez attention aux sons ou aux objets visuels, vous pouvez commencer à prendre conscience de leur passage. Ce faisant, vous pouvez prendre conscience de l'esprit à travers lequel toutes ces pensées apparaissent et disparaissent. La pensée est l'activité naturelle de l'esprit. Une expression de la capacité de l'esprit à produire toutes sortes de choses. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est une jolie description qui fait réaliser en vérité que en prenant conscience des pensées progressivement, tranquillement, on prend conscience aussi de l'esprit à travers lequel toutes ces pensées apparaissent. C'est-à-dire cette capacité, et on vous invite de temps en temps, cette capacité de la sensation d'être conscient, qui est extraordinaire et qui est d'une simplicité absolue. C'est comme les yeux voient, eh bien, il y a la capacité d'être conscient. Ce moment même, c'est en train de se passer. Vous êtes conscient d'être conscient. Et donc ça, c'est cette extraordinaire qualité de présence qui n'est pas une attention qui est portée sur les objets et perdue dans les choses, mais d'avoir une qualité de présence à ce qui se passe. Conscient d'être conscient du fait d'être en train de penser. Conscient d'être conscient du fait d'être en train d'entendre peut-être en ce moment, ou conscient d'être conscient de voir. Vous remarquez la différence? Donc si on commence à pouvoir découvrir ceci, C'est tellement immédiat, tellement simple en réalité, tellement là, c'est là en ce moment même. Si vous n'êtes pas complètement endormi, affalé sur votre coussin et en train d'être perdu et rêvé, eh bien, vous avez naturellement cette disposition de dire, tiens, ah ouais, la conscience, ben elle est là. Donc, ça nous révèle la présence en elle-même. Donc là, on peut passer d'un mode d'être complètement perdu, mais au moment où il y a la conscience d'avoir été perdu, on est conscient d'être conscient. Donc rien n'est perdu parce qu'on peut à chaque instant réveiller cette qualité de présence, réveiller cette qualité de présence indépendamment des contenus. Que ce contenu ait été dramatique, qu'il ait été extrêmement réjouissant, fascinant, merveilleux, tous les types de contenus qu'on peut avoir, hein, toutes les façons dont on peut naturellement réfléchir à une chose ou une autre, le jugement aussi, l'autocritique, enfin toutes ces façons qu'on a de pouvoir naturellement explorer les représentations. Donc ici, nous n'essayons pas de nous débarrasser de ce type d'expérience. Ce serait vraiment très difficile et c'est vraiment important de comprendre que les pensées ne sont pas un obstacle à la méditation. Donc il faut revoir notre idée, si jamais c'est cette idée-là que vous avez, revoir notre idée, revoir nos concepts, nos... Remarquez que si on a ces idées, eh bien, il va y avoir un grand combat et puis ça va naturellement laisser émerger énormément de résistance. Parce que on crée à ce moment-là une séparation constante de vouloir se débarrasser d'eux pour pouvoir obtenir autre chose. Obtenir plus de calme, obtenir plus de contact sensoriel. Donc, c'est la réactivité qui nous dérange. Le problème là n'est pas dans les pensées, elle est dans la réactivité. Donc on réveille, tiens, ah mais j'ai pas envie de cette expérience. Je ne la veux pas, je veux une autre expérience. Et donc ceci aussi va faire partie de l'exploration et d'être vraiment tellement conscient du mode qu'on met en place et du rapport à l'expérience. Donc, à nouveau, le problème n'est pas dans le fait d'être en train de penser ou d'avoir des pensées, mais dans le rapport aux pensées, dans la relation à ce qui se passe. Et toute la méditation se situe et se réveille et est intéressante dans son rapport à ce qui se passe. Donc là, il y a plus de vie, il y a beaucoup plus d'amplitude et il y a beaucoup plus d'espace. Ce qu'on va pouvoir peut-être commencer aussi à découvrir, c'est qu'il y a plein de moments où il y a de l'espace entre ces pensées. Que ce n'est pas un flot continu, un courant perpétuel, ce serait extrêmement fatigant, vous vous rendez compte, si on était constamment en train de penser, je veux dire, de fabriquer. Il y a évidemment dans cette disposition d'être un petit peu plus conscient, voire même beaucoup plus conscient, eh bien, il y a beaucoup d'espace entre les pensées. Il y a beaucoup d'espace de conscience, d'espace de vécu corporel, d'espace de vécu sensoriel, et qu'on est moins confiné, qu'on est moins pris et limité par l'expérience présente. Donc cette exploration, elle réveille beaucoup de choses en fait. Elle réveille la conscience, elle réveille la dimension de simplicité quand on peut élargir notre perspective, élargir notre compréhension, peut-être s'intéresser aux préjugés que l'on a, aux idées, aux concepts eux-mêmes en lien avec la méditation. On a tant d'opinions, tant de points de vue ça devrait être, ça devrait pas être. Alors bien sûr, là, on parle de la méditation, mais c'est évident que on a aussi beaucoup d'opinions et de points de vue en relation avec ce qui peut se passer dans nos vies, dans nos relations avec les autres, dans le monde aujourd'hui. Il y a énormément d'idées, d'opinions, de points de vue qui sont complètement contradictoires. Ils peuvent être contradictoires en nous-mêmes. Donc déjà, d'avoir un éclaircissement à ce niveau-là, de penser une chose et son contraire, et que ça, c'est possible, et c'est assez extraordinaire de voir ceci. Et puis, bien sûr, qu'on peut le percevoir dans le monde. Je veux dire, combien chacun, finalement, perçoit d'une certaine manière, et que c'est ces modes de perception, c'est ces modes de conception qui sont en jeu aujourd'hui, qui sont vraiment en relation et soit s'harmonisent, soit sont en conflit les uns avec les autres. Et c'est un petit peu ce qui se joue aujourd'hui dans notre existence. Et de tout temps, ça a été ça. Mais ici, si vous voulez élever le potentiel, et vraiment, je crois que cette situation plus particulière dans laquelle nous nous trouvons depuis quelques mois maintenant, eh bien, nous donne la possibilité de questionner. Et c'est évident qu'on se questionne un petit peu plus. Voilà, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Et puis, cette situation, eh ben, elle nous a bouleversés, elle nous a peut-être chamboulés, elle a peut-être chamboulé nos vies, elle a peut-être vraiment apporté un changement brutal où on a besoin d'examiner, de considérer. Et donc, il y a des réflexions là qui sont tellement intéressantes et qu'on peut. On ne peut plus faire comme si on mène son petit bout de chemin habituel. Et dans un certain sens, la méditation là, elle est très porteuse parce qu'il y a, il y a vraiment quelque part, on n'est pas blasé, mais on a envie de se découvrir et de révéler et d'apprendre ce qui se passe au niveau de notre propre expérience. Qu'est-ce qui se révèle à moi-même? Et comment peut-être je réponds à une situation plutôt que de réagir à une situation, comment je réponds à ce qui se trame. Donc il y a beaucoup d'implications, c'est immense les implications quant à pouvoir découvrir un petit peu plus ce à quoi je pense, ce qui se trame. Et le Bouddha a été très clair, il dit ce à quoi on pense, c'est ceci qui devient la force au niveau des actions. Donc, on va naturellement avoir une disposition où on nourrit nos actions à partir de nos pensées. Donc, les intentions là sont immensément riches. Maintenant, quand on n'est pas dans ce cheminement, c'est évident qu'il y a un phénomène qui s'appelle, que j'aime bien, qui s'appelle Papancha. C'est un beau nom pali qui veut dire prolifération des pensées. Donc, une pensée ajoutée à une deuxième pensée, à une troisième, eh bien, ça fait boule de neige, et puis, ouh, voilà le cycle, et puis plus la boule de neige grossit, plus elle va dévaler la pente, et puis ça devient un monument, quelque part. Ça grossit, et c'est quelque chose qui prend toute la place. Donc ce phénomène s'appelle Papancha, et donc vous voyez que le Bouddha, il a eu un thème pour ceci, et je crois que c'est assez familier pour nous. Cette grande capacité de prolifération des pensées qui s'ajoutent les unes aux autres et qui font que on est vraiment nourri quelque part à ce niveau-là. Et que dans notre dimension de présence, on va rompre cette prolifération, rompre dans le sens de vraiment créer une brèche, un espace, et qu'à tout moment où on est un petit peu présent et voir la conscience qui est en train de penser, eh bien, il y a une rupture de ces schémas ou de patterns d'habitude d'être en train de proliférer des pensées, des récits à propos d'une chose ou d'une autre. Donc, c'est dans ce sens-là que la présence libère, elle est libératrice. qu'il y a un enchaînement de pensées, un enchaînement extrêmement, très souvent extrêmement prolifique de pensées sur un sujet particulier ou même anodine. Hein, et quelque part, on peut se rendre compte que à tout moment qu'il y a cette disposition d'être présent et d'être conscient et d'être vraiment là, dans l'instant même, il peut y avoir une rupture de cet enchaînement. Donc ceci se nomme libération. Au moment même où ça se produit et qu'on en prend conscience, on se dit, waouh, on n'est plus perdu dedans, on n'est plus perdu dans notre prolifération de pensée. Alors, c'est pas si évident que ça, mais en pratiquant et en étant un petit peu plus au contact, eh bien, c'est ce qui se passe. On va pouvoir prendre conscience. Et quand on en prend conscience, c'est pas pour se dire, oh là là, non, encore ces pensées, puis on ajoute une couche d'auto-jugement, et puis d'aversion, et puis de dire, non, mais je suis encore en train de penser, non, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je fais là? Ma méditation vaut rien. Et puis, tout ce que je peux rajouter encore de pensées qui viennent s'ajouter, qui ont naturellement une saveur ou un goût d'aversion, eh bien, ceci, on va tout simplement, dans la mesure du possible, ne pas le nourrir. Ne pas le nourrir. Donc, il se peut qu'il y ait ça, mais bien sûr, ça dit ça de moi. Je ne suis pas une bonne méditante parce qu'il y a ça. Non, les pensées, ce sont vraiment des phénomènes naturels qui émergent. C'est quelque chose d'extrêmement utile, comme j'ai pu le dire. Mais on peut aussi choisir le moment où on a envie de penser, et c'est une réflexion à ce moment-là nourrissante, et simplement cette prolifération, ce récit perpétuel qui peut-être n'est pas si aidant que ça. Donc on commence à pouvoir aussi avoir du discernement. Discernement dans le sens de quelle est la différence entre une réflexion et une rumination. Une réflexion, elle se fait de façon consciente. Donc, l'enseignement parle de réflexion sage, avisée, judicieuse, d'un choix de vie, d'un choix de situation, de vraiment porter son regard sur un point de vue et puis d'y réfléchir. Donc, là, il y a vraiment toute une perspective qui est extrêmement nourrissante et habile et utile. Par contre, il y a des moments où on est pris en otage et vraiment pris en otage par nos pensées et puis elles sont embarrassantes, encombrantes et puis elles servent à rien, puis on a l'impression que ça tourne en rond et puis que ça mène nulle part. Et de ce fait-là, on peut élargir et créer de l'espace et pas forcément s'y agripper et les nourrir. Donc la présence, elle va naturellement ici nous aider à briser ces schémas, à briser cet enchaînement. C'est pas si compliqué. C'est vraiment dans cette perspective de pouvoir sentir que c'est possible de vivre un tout petit peu plus librement au contact de ce type d'expérience et qu'on peut les vivre de manière plus équilibrée et donc être plus en paix. Non pas être plus en paix parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'on sait beaucoup mieux se situer. Donc voilà, j'espère que ceci est un tout petit peu plus clair et que naturellement, dans notre rapport à l'expérience présente, c'est toujours au niveau d'un processus vivant. On se perd, on a des concepts et l'approche, si vous voulez, quelques idées pour soutenir la qualité de la présence, eh bien, c'est d'avoir ce qu'on nomme cette curiosité. On parle souvent de curiosité, d'investigation, d'avoir de l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe ici? Non pas tant dans ce domaine à dire, mais pourquoi je suis en train de penser encore ça? Pourquoi je suis en train de penser encore ça? Eh bien, ça signifie sous-jacent que peut-être j'ai plus envie de penser à ça. Et donc, voilà, j'en ai marre et du coup, j'ai le rejet de ceci. Mais beaucoup plus simplement, c'est, tiens, comment c'est de penser à ça? Qu'est-ce qui se révèle là? Qu'est-ce qui est nourri? Et on nourrit à ce moment-là la présence. Donc la curiosité, elle va reconnaître ce qui se passe et naturellement, progressivement nourrir la présence, la conscience, l'état de conscience. Et plus il va y avoir quelque part le soutien et la présence de l'état de conscience, moins on sera gêné par ce qui émerge, par le contenu. Donc là, il y a une disposition, à nouveau une posture qui m'aide ou qui ne m'aide pas. Et s'il y a de la réactivité, ben on prend conscience de la réactivité. Elle demande aussi à être vue. Ah oui, je réagis, j'ai pas envie, je veux pas. Ben ça aussi, c'est une expérience. Puis peut-être qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est. Une deuxième approche qui peut être aidante et qui est vraiment révélatrice de ce qui se passe, c'est si on a souvent et fréquemment des récits qui ont trait soit au passé ou à l'avenir. Et ça, c'est généralement avec quoi on vit. Est-ce qu'on peut repérer et remarquer si ces pensées que je pense sont des pensées de souvenir, de se remémorer, avoir des trains de pensée qui vont très fréquemment au niveau du passé, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré du passé, une histoire du passé qu'on n'a pas complétée ou qu'on n'a pas complètement vécue, et donc ça revient, c'est réémergent. Et peut-être qu'il y a des émotions sous-jacentes qui nourrissent ces pensées. Et les pensées vont naturellement nourrir les émotions. Donc là, il y a une constellation d'événements qui font que on peut commencer à repérer. Et une petite note, juste une petite remarque à dire, tiens, souvenir, souvenir ou mémorisation ou se rappeler nous aide à peut-être cibler le contenu. Si on remarque que ces pensées ont trait à l'avenir, eh bien, il y a cette capacité plutôt que d'être, de dire simplement à penser, penser, on peut remarquer et avoir conscience d'être en train de planifier ou de projeter ou peut-être de s'inquiéter sur l'avenir. Mais ces pensées au sujet du passé ou au sujet de l'avenir, eh bien, elles sont en train de se manifester maintenant. Au moment où vous les remarquez, elles n'ont pas, quelque part, le pouvoir de vous amener ou de vous remettre dans un passé vécu. Ce sont des idées. Elles représentent peut-être, un vécu. On a peut-être la capacité d'avoir une image mentale d'un endroit où on était. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou même dans l'enfance, où on a peut-être l'imagination qui est fertile et on peut s'imaginer la représentation, l'image de comment ça pourra être dans un mois ou dans 10 ans. Mais ce sont des concepts, des idées. Et ces idées, elles sont naturellement émergentes dans le moment présent, au moment où vous les repérer. Et ça, c'est très très éclairant. C'est très éclairant parce que ça vous resitue. C'est maintenant que je pense cette pensée au sujet du passé. C'est maintenant que je pense cette pensée au sujet de demain, de l'avenir. Et j'y suis pas. Donc vous voyez que là, on quitte la confusion et qu'on est clair et qu'on a vraiment là une extraordinaire capacité de pouvoir être mieux situé. On peut même aussi avoir des pensées qui ont trait au présent. Donc j'ai parlé de celles qui ont trait au passé, celles qui ont trait à l'avenir, mais on peut très très bien fabriquer des pensées et un contenu par rapport à ce qui se passe, même au contact de la d'une sensation corporelle ou de la respiration, tout simplement, plutôt que d'être simplement au contact de ce vécu sensoriel, on peut naturellement élaborer une pensée à son sujet. Elle est agréable, elle n'est pas agréable, je respire bien, je respire pas bien. Je me dis quelque chose à son sujet. Je commente. Et lorsque je commente sur le présent, ou je l'évalue, ou voilà, je suis en train de penser, je ne suis pas en train de ressentir la sensation corporelle. Donc à nouveau, ce n'est pas du tout un problème, mais c'est resituer les choses dans leur contexte. Penser au sujet d'une sensation, il s'agit de penser. Il ne s'agit pas de vivre et d'éprouver la sensation, d'éprouver l'expérience corporelle. Donc là, il y a vraiment une exploration tellement riche. En tout cas, moi, je trouve que c'est immensément riche parce que on est beaucoup moins perdu, on est beaucoup moins confus, on est beaucoup moins limité et beaucoup plus libre à ce moment-là. Et de libre dans le sens de comprendre, dans le sens d'éprouver, d'expérimenter. Moins pris aussi dans nos croyances. Maintenant, il est aussi intéressant d'explorer cette approche de l'espace entre les pensées. Trouver de l'espace, avoir une attitude spacieuse autour des pensées. Comment on peut créer de l'espace? En élargissant le champ de la présence. Très souvent, on se limite et on se contraint et donc ça devient extrêmement fermé, replié, si on veut. Et il est possible d'élargir l'espace, l'attitude, peut-être en étant justement conscient de l'absence des pensées par moment et surtout de la dimension impermanente. C'est extraordinaire lorsqu'on a cette façon de voir qui dit « je suis toujours en train de penser ». Et combien je peux interpréter toute ma méditation? Voilà, j'ai eu un moment, peut-être que 10 minutes, un quart d'heure, et puis je suis toujours en train. Et donc, je solidifie cette expérience. Quelque part, je l'isole et que tout le reste n'a pas été pris en compte, n'a pas été vu, il y a eu manqué d'espace. Et donc, je suis complètement pris, confinée dans mon attitude et mon idée au sujet de ce qui se passe. À ce moment-là, les pensées ont beaucoup de poids. Elles sont un fardeau. Donc c'est très intéressant de pouvoir se rendre compte qu'on peut naturellement sentir qu'elles sont passagères. Car c'est un processus et qu'il y a vraiment un courant. C'est un courant, un flot d'événements passagers. Et que comme tout événement, comme tout phénomène, ben voilà, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Un courant. Donc inutile de les supprimer, inutile de vouloir s'en débarrasser. Alors peut-être qu'on peut vraiment se rendre compte combien on est constamment en train de réagir contre, contre, contre. Et que ce mode de réaction, c'est quelque part un mode de souffrance qu'on s'impose. Et qu'il n'est pas nécessaire de le nourrir. Non, non, prendre conscience et se dire, ok, voilà ce qui se passe. Je suis en train de lutter, de combattre, et je peux créer un espace, avoir une attitude beaucoup plus ouverte, les accueillir, les accepter. Et des fois, c'est radical. Je décide vraiment radicalement de les accueillir, de les accepter, ces pensées, pour ce qu'elles sont. Des fois, je suis tellement perdue dedans qu'une autre approche, ça peut être justement de les laisser de côté, choisir une autre chaîne, un autre canal si on veut. On change de chaîne de radio, puis on se dit, tiens, ah voilà, respiration, sensation corporelle, et puis je les mets quelque part en arrière-plan, et je choisis délibérément de prendre appui sur peut-être une zone d'ancrage. Tout simplement pour me rééquilibrer. Donc ça, c'est un juste choix. Non pas pour les éliminer, mais justement pour pouvoir retrouver une aptitude d'équilibre, de stabilité, et ceci va nourrir la présence. Tout simplement. Je peux aussi très naturellement créer de l'espace en étant dans une disposition d'esprit où je vais, surtout si je suis envahie, aller à la rencontre et choisir quelque chose de positif, un état mental positif par exemple, de nourrir peut-être la qualité de la bienveillance. Donc pour détourner le regard, pour désorienter, mais volontairement, ça c'est vraiment une simplicité et un choix volontaire pendant quelques minutes, pendant un temps, pour favoriser une certaine détente, afin de simplement percevoir ce qui se passe et trouver un petit peu plus de disponibilité, d'écoute et surtout d'aise. Donc dans toutes ces possibilités-là, il y a une manifestation d'une compréhension qu'on laisse les choses être ce qu'elles sont, qu'on laisse les expériences être ce qu'elles sont, dans leur état naturel. Donc la présence est. La présence, elle n'est pas à faire, elle n'est pas à acquérir, elle n'est pas à avoir, elle est déjà là. Donc c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus immédiat et disponible d'être en conscience de ce que je suis, d'instant en instant, avec les différentes expériences qui nous traversent. C'est le même processus avec les émotions, exactement le même. Donc, il peut y avoir par moments des pensées obsédantes qui font qu'il y a un contenu et dans ce contenu, il peut y avoir des émotions, de l'inquiétude ou de la tristesse ou de la mélancolie ou de l'excitation. Il peut y avoir même des émotions très agréables, de la joie. Donc, il peut y avoir naturellement là, dans cette perspective, une constellation de contenus qui ont une coloration émotionnelle et qu'on va pouvoir explorer de la même manière que ce que je viens de décrire. Donc plutôt que de craindre la vie, on va pouvoir la vivre un petit peu plus tranquillement. Et c'est vraiment ce qu'apporte la méditation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est nécessaire et c'est tellement soutenant. En tout cas, je vois pour ma part, dans ma propre vie, combien les aléas de la vie, combien ça, les oscillations de la vie, les fluctuations sont là et que on essaye absolument d'avoir quelque part des certitudes alors qu'il n'y a pas de certitude. Mais il n'y a jamais eu de certitude. Et donc, c'est tellement plus encourageant et beaucoup plus nourrissant que plutôt que de chercher à vouloir contrôler ce qui est incontrôlable ou saisir l'insaisissable, c'est vraiment de danser avec la vie, de pouvoir accueillir la vie et en prendre toute sa mesure, s'accompagner aussi, se faire du bien, se relationner pour pouvoir être plus libre. Et cette liberté est équivalente de sagesse dans l'enseignement. Un enseignant dit ceci, le moment présent est le seul endroit où nous pouvons apprendre à être libres, au contact de la réalité. Donc voilà pourquoi on vit plus présentement, plus au contact de ce qui émerge. Et c'est en constante évolution. Le monde est en constante évolution. Nous sommes en constante évolution. Il n'y a aucun doute qu'il y a ici une dimension, et ça a toujours été, de grandes transformations. Donc cette présence, c'est quelque part découvrir la fraîcheur. Lorsqu'on est perdu dans les pensées, perdu dans les contenus, c'est du connu. On ressasse le connu. Et on essaye de se rassurer au contact de ce connu. Donc c'est vraiment fascinant de voir que on essaye de quelque part répéter les choses pour se rassurer, puis que c'est exactement là qu'il y a une dimension de limitation. Donc la présence libératrice, elle nous invite à vivre plus pleinement, étant plus curieux, plus frais, et percevoir aussi la beauté du monde, apprendre à avoir confiance. Donc s'il y a un lieu de refuge, s'il y a un lieu de... Oui, de refuge, de... tranquillité, de sagesse, c'est bien dans la présence. Ceci est le lieu où l'on peut toujours connaître ce qui se passe, ce qui est éprouvé. Et l'invitation, c'est ça, c'est vraiment la vie, se connaître entièrement vivant. Voilà, je vais juste terminer avec une citation du Dalai Lama, qui est tout à fait appropriée ces temps, et qui dit « Ne demandez pas ce dont le monde a besoin. Ne demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous rend plus vivant. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de plus de gens qui deviennent vivants. » Donc vivant dans le sens d'être en vie, d'être en éveil. Donc on peut aussi naturellement dire cette présence, c'est une présence éveillée. Et qu'elle est disponible, elle est là, elle est toujours là. C'est absolument merveilleux de pouvoir commencer à sentir la vie qui nous traverse et qui nous accompagne, et qu'on peut accueillir en ayant moins peur de la vivre, sans s'en séparer. Voilà, quelques réflexions et surtout, j'espère, des réflexions qui vont vous porter à cultiver la présence, à nourrir la pratique. Et puis, très naturellement, ceci peut se faire alors que vous vous levez, vous allez peut-être boire une tisane ou à tout moment. C'est aussi tellement important de se rendre compte, et cette expérience-là est géniale. Vous êtes chez vous ou peut-être dans un lieu qui n'est pas le vôtre mais qui est proche. Je crois qu'il y a des personnes qui ont rejoint d'autres dans un lieu de vie. Et puis, c'est très intéressant de voir que on est dans son contexte, et qu'il y a peut-être plein d'habitudes qu'on a et qu'on commence à apercevoir. Tiens, mais pourquoi je fais cette chose de cette façon-là? Tiens, oui, bah oui, je pourrais peut-être la faire autrement. Et puis se découvrir et se révéler à soi-même dans un contexte qui nous est familier. Et donc la retraite, là, chez vous, c'est formidable de pouvoir explorer cette dimension de fraîcheur, de curiosité, de vivre plus pleinement au contact de ce qui se passe. Voilà, prenez-vous pas trop la tête. Il s'agit de respirer plus pleinement et de créer une attitude spacieuse, tranquille. Merci et à tout à l'heure. Donc dans 45 minutes, nous nous retrouvons pour une petite demi-heure de méditation de bienveillance et de méditation en silence pour terminer la journée ensemble. À tout à l'heure.